Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Maxime. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Merci à toi pour l'invitation.
En 2016, tu as lancé la start-up Mon Banquet et elle a été rachetée il y a un an par un groupe allemand. Et aujourd'hui, tu as intégré Hublot, c'est ça?
Ouais, tout à fait, exactement.
Et en fait, par rapport à l'expérience de tous les start-upers que j'ai fait dans ma région et dans ma ville Strasbourg, ben, j'aimerais bien aborder le sujet du rachat en fait d'une start-up parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience à notre échelle. La seule qui a été rachetée, ça s'appelle AR24 par la Poste, mais c'est au tout début, donc il faut à peu près 2 ans. Je sais pas si c'est partout pareil, si ça prend vraiment des années ou c'est hyper rapide.
Bah, si tu veux, je peux te raconter un peu comment on arrive à revendre une start-up. Et te raconter un peu l'histoire Mon Banquet. Si tu veux, Mon Banquet, en fait, c'est une boîte qu'on a lancée en 2016 avec mes associés. C'est une boîte qui fait du traiteur artisanal à destination des entreprises. Donc, en fait, on a créé un service traiteur qui valorise l'artisanat local. Donc, globalement, on travaille avec des boulangers pâtissiers, des restaurateurs, des épiceries, avec qui on crée une offre qui n'existait pas forcément déjà, qu'on crée une offre de traiteur. Et en fait, on a créé un service pour pouvoir permettre aux entreprises d'organiser des événements en toute simplicité avec des bons produits et au bon prix. Donc ça, c'est le concept Mon Banquet qu'on a lancé en 2016. Quand on s'est lancé, ça faisait déjà 3 ans qu'on était dans le secteur, dans l'univers de la boulangerie-pâtisserie avec mes associés. On était encore étudiants, mais on avait monté une plateforme qui était un peu un TripAdvisor de la boulangerie en 2014, qui s'appelait Du Bon Pain. Et en fait, je pourrais revenir dessus et te raconter un peu les débuts, mais globalement, on s'est lancé en 2016, un peu par hasard sur ce marché du traiteur. La mayonnaise a très vite pris, la boîte a vite pris une grande ampleur. On a été amené à lever des fonds 2 fois pour financer notre développement. Mais pour parler de la revente, qui est là le sujet qui t'intéresse, c'est quand on lance une boîte, je dirais que nous, on l'a pas lancée pour la revendre. Donc ça, c'est déjà un point important. Il y a peut-être certains entrepreneurs qui se lancent avec pour but de faire un maximum d'argent en un minimum de temps possible. Peut-être que ça marche pour certains. Moi, c'est pas forcément ma philosophie. Nous, on s'est lancé parce que on avait envie d'avoir de l'impact. On voyait que on pouvait avoir de l'impact dans le quotidien d'artisans avec qui on travaillait. Et c'était ça le moteur principal. Et d'ailleurs, le premier projet qu'on menait, c'était on n'avait pas forcément l'idée de monter une boîte à la base. Ce projet du Bon Pain, c'était un guide des boulangeries en ligne. Et franchement, ça aurait pu être une association comme une boîte, comme un projet qu'on aurait mené le soir ou le week-end. Et finalement, de fil en aiguille, au fil des rencontres, on s'est rendu compte qu'on pouvait justement se lancer sur le marché du traiteur, trouver un modèle économique et finalement créer une boîte. Donc un peu malgré nous, on a lancé l'entreprise qui a eu un certain succès assez vite et on s'est mis dans la case start-up parce qu'on a commencé à lever des fonds. Et ce qui est bon de savoir, c'est que quand on lève des fonds, c'est-à-dire qu'on donne une partie de notre capital à des investisseurs extérieurs. Donc nous, en l'occurrence, on a levé tout de suite avec un fonds de capital risque qui s'appelle Isaïe. Donc il y a un fonds, ce qu'on appelle de VC, de Venture Capital, donc investit des montants là de 500 000 euros à plusieurs millions d'euros, voire plusieurs dizaines de millions d'euros. Et c'est un fonds qui avait investi dans des boîtes comme Blablacar, par exemple. Et donc, très tôt, on a eu un fonds d'investissement à notre capital. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le métier d'un fonds d'investissement, c'est d'investir dans des startups dans l'objectif qu'elles se développent très bien, puis qu'ils aient ce qu'on appelle un exit au bout de 5-7 ans. Et c'est une opération qui va leur permettre de revendre leur part pour pouvoir avoir un retour sur investissement qu'ils vont eux-mêmes reverser à leurs investisseurs. Parce que les fonds d'investissement ont eux-mêmes des investisseurs qui peuvent être des particuliers, qui peuvent être des institutionnels, des entreprises, à qui en fait ils promettent un certain retour sur investissement. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on accepte un investissement de la part d'un fonds d'investissement, on sait qu'à un moment ou à un autre, il faudra qu'on trouve une opération de liquidité qui va permettre de revendre les parts et du coup de leur procurer ce retour sur investissement attendu. En revanche, ce, ce moment-là, on sait jamais quand il va arriver vraiment. Et puis, je dirais qu'il y a trois façons d'en arriver là. C'est, on peut revendre ses parts. Bah, on peut faire en sorte que le fonds d'investissement revende ses parts en rentrant en bourse. Donc ça, c'est un scénario qui va de plus en plus être présent en France, notamment avec le nombre de licornes qu'on a actuellement, et certaines vont faire ce qu'on appelle des IPO, donc rentrer en bourse. On peut revendre sa boîte. Donc revendre sa boîte tout simplement à une autre qui va racheter les parts de la société. Et où on peut continuer à faire des levées de fonds, et lors de certaines levées de fonds, on peut faire ce qu'on appelle du secondaire, c'est-à-dire que le nouvel investisseur entrant va racheter des parts d'anciens investisseurs. Donc ça, c'est des moyens, on va dire, de permettre à ces investisseurs de sortir. Ce qu'on dit sortir, c'est réaliser leur exit. Et donc, quand on lève avec du VC, naturellement, on sait qu'un jour ou l'autre se posera la question de l'exit. En revanche, nous, on a tracé notre route, la boîte s'est bien développée, et en fait, on est arrivé à un moment en 2019. On avait fait deux levées de fonds. En 4 ans, la boîte faisait à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah oui. On avait une très belle croissance. On était présent, en gros, on était présent à Paris, Lyon, dans quelques autres villes. On faisait à peu près 500 événements par mois. Donc, on commençait à avoir une bonne taille. À titre de comparaison, un traiteur moyen en France va faire 400, 500 événements dans l'année quand il tourne déjà très bien. Et nous, on en faisait 500 par mois. Donc, on avait très belle volumétrie. En fait, on était arrivé à un stade où on souhaitait vraiment passer encore plus à l'échelle d'un point de vue développement. Donc, à l'échelle d'un point de vue géographique, on souhaitait se déployer à l'échelle nationale, voire internationale en Europe. Et on était à un stade aussi où on avait vraiment financé notre croissance depuis le début grâce au capital risque. Donc, on n'était pas encore rentable. Parce que notamment, en fait, nous, on est sur un secteur sur lequel les marges ne sont pas forcément très élevées avec un modèle qui était celui qu'on avait. Et on avait un peu recruté, on va dire, en avance de phase, surtout sur l'équipe tech, pour pouvoir construire une plateforme technologique qui nous permettait de vraiment passer à l'échelle. Et en fait, on est arrivé en 2019 à un moment où on s'est dit, on a encore besoin d'un peu de fonds pour pouvoir continuer de vraiment accélérer. Et du coup, on va devoir se remettre en fait sur la route pour aller chercher un nouvel investissement. Et donc à ce moment-là, se pose la question de continuer à aller voir des investisseurs, donc des nouveaux fonds d'investissement, sachant qu'à ce moment-là, on avait déjà deux fonds d'investissement à notre capital. On avait Isaïe qui était l'investisseur initial, on avait French Food Capital qui était un deuxième fonds qui avait investi chez nous. En 2018, au moment où on avait fait une levée de fonds de 2,5 millions. En tout, on avait levé 3 millions d'euros avec la boîte. Et donc, on se dit, soit on peut aller voir un nouveau fonds d'investissement, soit, en fait, il y a aussi une possibilité pour avoir les reins plus solides d'un point de vue financier, c'est de penser à ce qu'on peut appeler un adossement industriel, c'est-à-dire aller chercher une levée de fonds ou un rachat auprès d'un autre acteur, d'une autre entreprise qui est sur ce marché, pour en fait trouver des synergies, mettre nos forces en commun et voir plus grand ensemble. Et du coup, en fait, on réfléchit à ça, on lance un peu les deux pistes en parallèle, et nous, on s'aperçoit vite que on s'était mis dans la case du VC, du Venture Capital. Donc le VC, en gros, ce qu'ils attendent, c'est globalement des startups qui vont très haut, très très vite. Donc des taux de croissance qui sont assez importants. Donc globalement, on va dire que des boîtes qui marchent très bien dans cette catégorie de recherchées par les VC sont des boîtes qui vont avoir des taux de croissance supérieurs à 100% annuel. Donc 100%, ça veut dire qu'on double notre chiffre d'affaires tous les ans. Donc nous, on avait eu ça les premières années, et là en 2019, on arrivait sur un taux de croissance qui était à peu près de 60% de croissance annuelle. Et en fait, 60% de croissance, c'est un taux de croissance sur le marché du traiteur événementiel qui est incroyable, parce que je pense qu'aucune autre boîte n'a ce taux de croissance. Il y en a beaucoup qui ont des taux de croissance négatifs, parce que c'est un secteur qui est quand même sur lequel il est assez difficile d'évoluer. Et certaines, quand elles ont 5-10% de croissance annuelle, sont vraiment très contentes. Nous, on faisait 60% de croissance. Et pour autant, aux yeux du VC, ce taux de croissance n'est pas forcément celui qui allait nous permettre d'aller chercher une nouvelle levée de fonds, parce que en fait derrière cette croissance annuelle se cache un potentiel de revente qui ne pouvait plus être cohérent avec les niveaux de valorisation qu'elle est justifiée si on faisait une levée de fonds. Pour être très clair, en gros, quand on lève des fonds, quand on voit des boîtes lever 2 millions d'euros, souvent, elles lâchent entre 20 et 30% de leur capital. Donc, si elles donnent 20% de leur capital, ça veut dire que mécaniquement, la boîte est valorisée 10 millions d'euros. Sauf que c'est une valorisation qui est théorique. C'est juste un pari sur l'avenir. Sauf que quand on commence à cumuler les levées de fonds, à un moment, nous, si on allait lever 5 millions d'euros en 2019, au moment où on cherchait de l'argent, bah en fait, on aurait valorisé la boîte peut-être entre 15 et 25 millions d'euros. Sauf que ça voudrait dire revendre la boîte largement plus que 15 ou 25 millions d'euros. Sinon, en fait, les investisseurs sont perdants. Et à un moment, ce calcul se fait et on se dit, bon, en fait, le marché sur lequel on est et le type de boîte qu'on est en train de construire est peut-être pas compatible avec ce scénario qui est d'arriver à revendre cette boîte plus de 30 millions d'euros dans les années qui viennent. Donc, pourquoi pas, en fait, explorer la pièce du rapprochement industriel. Et moi, j'ai toujours eu de très bonnes relations avec tous nos concurrents, que ce soit en France ou à l'étranger. Et du coup, j'ai toujours entretenu des bonnes relations avec les CEO d'autres startups de notre secteur. Et en fait, j'ai commencé des discussions avec plusieurs d'entre eux. Et de fil en aiguille, il y a un projet commun qui s'est construit avec notre concurrent allemand, qui avait un modèle un peu similaire au nôtre, mais pas exactement le même et surtout complémentaire de ce qu'on faisait en France. Et lui qui était présent dans 5 pays, en Europe et aussi en Australie. Et en fait, de fil en aiguille, on a commencé à élaborer un projet ensemble et qui a abouti finalement à la revente de Monbanquet en janvier 2020 auprès de B2B Food Group, du coup, qui était notre concurrent allemand.
Et ça fait pas bizarre de vendre son bébé comme ça ?
En fait, quand tu... c'est pareil, il y a plusieurs cas de figure dans les reventes et c'est pas toujours explicité quand on regarde les articles de presse qui parlent d'une revente. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on revend très rarement avec pour l'objectif de laisser les clés à l'acquéreur et de partir 3 semaines après. D'ailleurs, c'est pas ce que l'acquéreur veut, parce que s'il rachète une boîte dans laquelle les fondateurs partent après la revente, souvent la boîte rachetée va pas continuer très longtemps. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des clauses qui s'appellent de l'earn-out, qui sont en fait qui garantissent que les équipes qui ont revendu, notamment les équipes fondatrices, restent un certain temps auprès de l'acquéreur pour que la transition se passe bien et pour que le projet commun puisse voir le jour. Donc nous, c'était le cas et à vrai dire, en fait, ça peut faire bizarre effectivement de céder son bébé entre guillemets, mais en réalité c'était pas si difficile parce que on adhérait vraiment au projet qu'on avait construit ensemble et on l'avait en fait surtout on l'avait construit ensemble quand on l'avait construit avec l'acquéreur et ce qui a été difficile ça a plutôt été la crise du Covid qui est survenue 3 mois après la revente et qui là a chamboulé toute notre industrie. Mais à vrai dire au moment de revendre on était plutôt galvanisés par cette revente parce que ça nous ouvrait des perspectives qui étaient beaucoup plus larges que ce qu'on avait eu les premières années, parce que là on se retrouvait du jour au lendemain, on passait d'une boîte qui allait faire en 2020 entre 4 et 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en France à une boîte qui allait faire plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires dans 5-6 pays dans le monde et dont la langue principale passait de l'anglais du français à l'anglais du jour au lendemain, et une boîte qui passait on était une trentaine de personnes à plus de 200 personnes, et du coup ça donne une dimension collective et internationale qui est assez en fait galvanisante et excitante pour toutes les équipes. Donc c'était vraiment quelque chose qui était plutôt très sympa à vivre. Par contre, ce qui est plus dur, c'est le process qui amène jusque-là, quoi. Un process de revente, ça dure longtemps. Moi, en l'occurrence, ça nous a pris 8 mois avec des négociations qui sont parfois interminables à base de négociations d'avocats un peu dans tous les sens parce que c'est compliqué finalement d'arriver à des contrats de revente. Donc, c'est un processus qui est épuisant, tout comme le processus de levée de fonds qui prend entre 4 et 6 mois. Et donc, c'est quelque chose qui a aussi un impact sur la vie de l'entrepreneur et la vie d'une boîte.
C'est pour ça que quand on parle d'AR24 à Strasbourg, qui en revente, c'est 2 ans. En fait, c'est normal, c'est l'accompagnement, je pense.
En fait, Dans la revente, il y a plein de phases. Il y a déjà la phase qui est celle de la préparation finalement du projet des vendeurs, c'est-à-dire comprendre pour quelles raisons ils vendent. Est-ce qu'ils revendent parce qu'ils ont plus de cash dans X mois? Et dans ce cas, il y a vraiment un timing serré. Il faut arriver à revendre. C'est soit ils revendent, soit ils partent à la casse. Est-ce qu'ils revendent parce que finalement c'est juste une histoire qui arrive à sa fin d'un point de vue entrepreneurial où les fondateurs ont envie de partir faire autre chose? Est-ce qu'ils revendent pour passer à une autre échelle? En fait, faut construire cette histoire. Et donc ça prend un peu de temps parce que faut construire l'histoire et c'est comme une levée de fonds. Faut avoir le bon pitch et raconter la bonne histoire auprès des potentiels acquéreurs. Mais qui dit la raconter, il faut aussi préparer toute la présentation qui va sous-tendre cette histoire. Donc avoir les slides qui permettent de justifier tout ça, les chiffres et aussi montrer que la dynamique de la boîte, faut qu'elle soit relativement positive pour intéresser des acquéreurs. Après, il faut aller voir ces acquéreurs-là. Donc, on peut décider de le faire seul ou avec une banque d'affaires. Il y a plein de banques d'affaires dont c'est le métier d'accompagner les entrepreneurs pour rencontrer ces acquéreurs et ensuite, fabriquer la transaction avec eux. Et puis, une fois qu'on rentre en contact, c'est un peu comme c'est une histoire d'amour qu'il va falloir créer. Donc, il y a un premier date entre l'acquéreur et le vendeur. Il faut que l'opération de séduction fonctionne et une fois qu'elle commence à fonctionner, il faut faire plusieurs rendez-vous avant vraiment que les deux se marient, quoi. Et avant de se marier, il faut rédiger le contrat de mariage et le contrat de mariage, il est souvent un peu compliqué à rédiger. Et donc ça, c'est vraiment des phases qui prennent beaucoup de temps et qui suscitent beaucoup de questions personnelles, notamment entre associés, parce que c'est les moments dans lesquels on doit vraiment se demander ce dont on a envie en tant qu'entrepreneur et en tant que personne, qu'est-ce qu'on a envie de gagner dans cette transaction et qu'est-ce qu'on a envie de faire les années qui vont suivre cette transaction. Est-ce que j'ai envie de continuer à travailler avec le nouvel acquéreur? Est-ce que j'ai envie de partir le plus vite possible parce que je crois pas dans ce projet commun et j'ai envie de changer de vie? Et en fait, tout ça prend du temps et il faut souvent mûrir ces questions, revenir dessus plusieurs fois. Et c'est pour ça que c'est des process qui peuvent s'étaler dans le temps.
Je voulais rebondir par rapport à l'actualité. Tu me disais des startups. Tu me disais qu'il fallait éviter justement de se comparer. Est-ce que toi, tu t'es comparé à plein de boîtes ou pas?
Nous, en fait, on a toujours été avec mes associés, on a toujours été très pragmatique, on va dire, très terre à terre. Et c'est vrai que naturellement, à un moment, on fait un peu le jeu de l'écosystème et on tombe dans cet écosystème et on fait comme tout le monde. Quand on lève des fonds, on écrit notre petit article qui va sur Madinès, sur French Web. Je suis passé plusieurs fois sur BFM Business. On a joué à ce jeu et on a utilisé le système aussi comme tout le monde. Pour autant, on a toujours un peu pris de recul par rapport à l'actualité startup parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais les histoires qui sont mises en avant, elles sont pas représentatives de l'entrepreneuriat en France. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, on va parler principalement que des succès. On parle rarement des échecs dans les différents médias startup, même si ça commence à venir de plus en plus. Mais malgré tout, on n'en parle pas tant que ça. Alors que dans le monde des startups, 80% des boîtes, voire peut-être même un peu plus, 80% des boîtes qui se montent vont mourir. Et ça, c'est une réalité. Or, 80% des articles qu'on lit ne concerne pas des échecs. D'ailleurs, le fait qu'une boîte meure, c'est pas forcément un échec, mais ne concerne pas des faillites. Et donc, déjà, il y a une distorsion de réalité par rapport à ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lève des fonds, globalement, le process pour avoir des articles dans la presse, c'est d'écrire un communiqué de presse et de l'envoyer à des journalistes ou à différents médias pour qu'ensuite ils puissent se l'approprier, reprendre et écrire un article. Donc, il y a quelques bons journalistes qui vont faire ce travail. On a Claire Boulot chez Challenge, on a Sébastien Coinon qui vient de quitter BFM Business. On a quelques journalistes comme eux, au Guillaume Bergeras, aux Échos, qui font un vrai travail de journaliste et qui, on va dire, documentent bien leur sujet et n'écrivent pas n'importe quoi. Mais on a une grosse majorité de, je ne sais pas si on les appelle journalistes, pigistes, ou autres, mais qui vont simplement faire un copier-coller du communiqué de presse que vous avez envoyé et qui vont le publier. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'information, elle n'est pas forcément filtrée, elle n'est pas forcément traitée avant d'être publiée. Donc, c'est quoi la conséquence? C'est que quand on lit un article qui concerne la levée de fonds d'une boîte, ben en fait, la plupart du temps, cet article, il a été écrit par les fondateurs. Donc l'histoire qui est racontée, c'est pas forcément la réalité, c'est la réalité que veut vous donner l'équipe fondatrice ou l'équipe dirigeante de la startup concernée. Et donc ça, en fait, quand on gravite un peu dans le milieu des startups, on apprend à lire l'actualité, on apprend à comprendre ce qui se cache derrière tous ces articles. Mais c'est vrai que quand on n'est pas initié, bah on n'a pas forcément ce recul. Et je pense que c'est important de le dire et c'est important de le savoir que quand on lit un article sur la startup, on a quand même de très très grandes chances qu'il ait été écrit par la startup elle-même et que du coup, bah l'histoire qui est présentée, elle est nécessairement biaisée, elle n'est pas forcément le reflet de la réalité. Puis en plus, il y a souvent une tendance à un peu exagérer la plupart des chiffres qui sont présentés. Nous, à l'inverse, on regardait nos communiqués de presse, on nous reprochait même parfois d'être un peu trop humbles parce qu'on peut reprendre n'importe quel article qui nous concernait, les chiffres qu'on mentionnait étaient toujours inférieurs ou égaux à la réalité, alors que dans la plupart du temps, tu peux diviser par 2 ou 3 des chiffres annoncés et tu tomberas sur la réalité sans aucun problème. Donc, je pense qu'il faut, voilà, ce que je disais, c'est qu'il faut prendre un peu de recul avec cette actualité startup, savoir en fait tout simplement comment le traitement de l'information fonctionne, parce qu'aujourd'hui, c'est les différents médias que sont les Madines, les French Web et d'autres blogs sur l'entrepreneuriat, en fait, ils sont dans une course à la publication d'informations qui intéressent. Les informations qui intéressent aujourd'hui, ce sont les levées de fonds. Parce qu'il y a une certaine mode, il y a une course à la levée de fonds pour rattraper ce qui se fait aux États-Unis, au Royaume-Uni en termes de montant levé. Du coup, on est dans cette course effrénée à la levée de fonds. Du coup, dès qu'il y a une levée de fonds, il faut écrire un article. Sauf que les journalistes n'ont plus le temps d'écrire des articles. Donc, ils font ces copier-coller. Donc, faut un peu savoir comment l'actualité fonctionne là-dessus. Et surtout, après, il faut prendre du recul avec cette actualité pour se dire aussi que c'est pas parce qu'on parle tout le temps de levée de fonds que la levée de fonds doit être un objectif et une fin en soi. Moi, ça fait 3-4 ans que je donne des cours d'entrepreneuriat dans différentes écoles, notamment à Centrale Supélec, et je vois que, en fait, abreuvé par cette actualité de levée de fonds, souvent, il y a des élèves qui arrivent et qui me disent « comment je lève des fonds ?» Mais en fait, ils ont même pas forcément l'idée, le projet, ils ont même pas commencé à travailler sur leur boîte. Mais la levée de fonds paraît, en fait, plus on communique dessus, plus elle paraît être un passage obligé, alors que ça ne l'est pas du tout. La levée de fonds, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas du tout une fin en soi. On n'en a pas du tout besoin pour monter une très belle boîte. Et il y a des entreprises qui le démontrent avec brio, qu'on n'est pas obligé de lever pour réussir. On parle beaucoup d'une boîte comme Lemlist, par exemple, qui s'autofinançait et qui fait un très, très beau chiffre d'affaires, ou Germinal aussi sur le mode agence. Et en fait, on n'est pas obligé de lever des fonds pour réussir. Et d'ailleurs, la plupart des PME françaises, quand elles se sont montées, elles ne se sont pas montées avec du capital risque. Par contre, la levée de fonds, ça peut être très utile. Ça peut permettre d'accélérer, ça peut permettre d'atteindre des niveaux de résultats qu'on ne pourrait pas atteindre sans financement, mais il faut toujours que ça serve un projet. Parce qu'en fait, si ça ne sert pas à un projet, on finit par lever des fonds, on prend de l'argent parce qu'il y a de l'argent disponible, et ça, c'est certain qu'il y a plein d'argent disponible, et il y a de plus en plus de fonds, de plus en plus aussi de business angels qui ont eux-mêmes gagné de l'argent en revendant leur boîte ces dernières années. Du coup, l'argent, il est là, donc on peut le prendre, sauf qu'en fait, il va y avoir une désillusion 3 ans après avoir pris l'argent, on se dit, bah mince, j'avais levé 3 millions, ma boîte virtuellement, elle vaut 12, elle vaut 15. Mais aujourd'hui, mon niveau de business, il est tel que ma boîte, je pourrais même pas la vendre 1 million. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les investisseurs sont pas contents. Les fondateurs ont passé 4 ans de leur vie à construire un beau projet potentiellement, mais qui va leur apporter zéro. Et même si la motivation principale n'est pas toujours l'argent, malgré tout, ils auraient pu valoriser différemment tout ce qui leur part, leur contribution dans l'entreprise, si peut-être ils avaient revu leur projet de levée de fonds différemment au début. Donc ça c'est super important de prendre du recul là-dessus. Et il y a autre chose aussi qu'il faut un peu savoir, notamment sur les reventes de start-up. Quand on revend une start-up, ça suscite toujours beaucoup de réactions sur les réseaux. Beaucoup de félicitations, et c'est vrai que il faut féliciter les entrepreneurs qui revendent leur boîte, parce que c'est pas donné à tout le monde, c'est des process qui sont très compliqués, et du coup c'est un exploit de ne pas être dans les 80% qui mettent une boîte à la faillite. En revanche, revendre une boîte, ça ne veut pas dire qu'on a la fortune d'Elon Musk du jour au lendemain. Et en fait, il faut comprendre les mécanismes de vente, de revente des startups aussi. Il y a des transactions qui se font en cash à 100%. Donc là, il y a des montants qui sont donnés avec de l'argent comptant. Mais il y a aussi des transactions qui se font en échange d'actions. Et souvent, quand une startup rachète une autre startup, ben, en fait, ce qu'elle dit, c'est « je te rachète, ben, donc toi, tu vaux 10 fois moins que moi, par exemple, et donc je vais te donner des parts de ma boîte en échange des tiennes. Et du coup, ben, je te rachète, mais en te donnant du papier. » Et du papier qui sont tes actions. Donc peut-être qu'elles vaudront des millions un jour, mais peut-être qu'elles ne vaudront rien aussi. Et donc il y a beaucoup de transactions qui se font dans ce cadre-là. Et donc c'est toujours important de prendre un peu de recul et démystifier un peu, l'actualité, quoi. Et juste un dernier point, parce que j'y pense, et je parlais du fait qu'il y a beaucoup d'argent disponible sur le marché, c'est un fait que... par plein de facteurs différents, le capital risque aujourd'hui, il est dans une posture où il est capable d'investir, il est capable d'investir de plus en plus massivement dans l'écosystème, ce qui est vraiment très positif parce qu'on va pouvoir avoir de très belles boîtes, de très belles success stories qui vont abreuver en fait tout l'écosystème entrepreneurial français au sens large et pas seulement que le monde des startups. Et donc, on a de plus en plus tendance à dire que c'est facile de lever. Moi, je mets juste un bémol là-dessus. C'est vrai que c'est facile de lever. Si on a les bons réseaux, si on est connecté aux bonnes personnes, et c'est encore plus facile de lever si on a un profil, on va dire, classique de start-up qui sort d'HEC, de Centrale, de Polytechnique, de Grande École, et qui coche certaines cases. Et donc, si on coche pas ces cases-là, c'est pas que c'est impossible de lever, mais il y a plus de difficultés, parce que quand on n'est pas à Paris, quand on n'a pas les bons réseaux, et quand on n'a pas fait les bonnes écoles, ben on est quand même en France où en France le poids de l'éducation a une certaine importance et tout au long de sa vie. On voit des personnes de 50 ans qui se définissent encore par leur école. Ben en fait, quand on n'a pas ça, c'est un peu plus dur. Et ça faut le savoir. Et c'est vrai que moi je suis très impliqué sur la thématique de l'égalité des chances et j'essaye toujours de promouvoir un peu plus de diversité dans l'écosystème entrepreneurial. Parce que malheureusement c'est pas toujours le cas et il existe un certain entre-soi et je pense que ça vaut le coup de mettre le doigt sur cette nécessité de diversifier l'écosystème d'un point de vue profil mais aussi de contribuer à un peu plus le rééquilibrer entre Paris et ce qui se passe en dehors de Paris. Après pour autant ça il y a une vertu aussi qui existe dans le monde des startups, c'est que je dirais que même quand on n'a pas les codes, ça peut être assez rapide de le pénétrer. Donc même si on n'est pas parisien, qu'on n'est pas blanc, qu'on vient pas d'un milieu privilégié et qu'on sort pas d'HEC, bon, il suffit de rencontrer 2-3 start-upers qui sont un peu connectés à l'écosystème, ce qu'on appelle les intros, donc les présentations entre différents fondateurs, différents fonds d'investissement, etc., vont assez vite. Et si on a une startup qui a des bons résultats, globalement, il n'y aura pas de sujet pour lever des fonds. Malgré tout, c'est toujours bon de se rappeler qu'il peut exister des biais et que c'est bon de les mettre sur la table pour tout simplement en être conscient et faire en sorte qu'il y ait un peu plus de diversité.
Mais ben, j'aurais donné des chiffres, mais je sais qu'il n'y a que 25% des startups qui font des levées. Et j'avais vu aussi que 99% des levées, enfin des startups qui font des levées n'ont pas d'argent en fait. Ce qui est marrant, c'est que ouais, il y a un profil type, mais avec tous les entrepreneurs que j'ai interviewés et à l'échelle de Strasbourg, voilà, qui ont quand même fait des levées qui sont moindres qu'à Paris, qui sont à 1,4 million, 1 million, etc. Ben il y a peu de personnes qui font un gros profil grandes écoles. Alors oui, il y en a qui doivent aller à Paris, ça, genre Rémi Despopia, je ne sais pas si tu connais, mais il a dû aller pendant un an régulièrement à Paris, parce qu'il a dit que l'argent était là-bas, donc moi je veux rester à Strasbourg, mais il faut que j'y aille. Aussi, ce qui est marrant, c'est quand on dit ouais, les gros profils HEC, blablabla, blablabla, bah, étrangement, c'est pas ceux-là qui deviennent vraiment des entrepreneurs, en fait. C'est genre, on le sait tous, que les... ok, c'est une haute école, mais même les écoles de commerce, c'est un peu bullshit, ça, tout le monde le sait. C'est des genre des bons vendeurs, mais enfin, qui ont peut-être plus la niaque et la résistance pour entreprendre. Mais moi, je suis un peu bête, peut-être un peu bête là-dessus, mais j'aime pas les codes. Je comprends pas qu'on doit rester dans des codes. Je comprends pas que voilà, qu'il y a Paris et la province?
Bah, en fait, c'est toujours. Moi, je suis contre justement un peu les stéréotypes, mais ça va dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que pas non plus cracher sur le monde des grandes écoles. Et moi, je suis issu des grandes écoles parce que j'ai fait mes études à Centrale. Et en même temps, j'ai grandi dans un milieu très modeste et dans une famille dans laquelle personne n'a fait d'études supérieures. Et j'ai grandi en banlieue parisienne dans le Val d'Oise, j'étais dans un lycée de ZEP. Donc j'ai bénéficié aussi de plein de programmes d'égalité des chances qui m'ont permis d'arriver dans ce milieu des grandes écoles. Donc je garde une bonne ouverture d'esprit par rapport à ce sujet. Et je dirais que, en fait, il y a des phénomènes qui s'expliquent et qui se comprennent, à la fois Paris versus les régions et grande école versus les autres. C'est qu'il y a un peu des phénomènes statistiques aussi qui font que il y a plus de chances de trouver des boîtes qui cartonnent à Paris, il y a
Ah
plus de chances de trouver des équipes qui sont solides plus rapidement et qui arrivent à se structurer très vite dans les grandes écoles, qui font que il y a certaines directions qui sont données sur le financement des startups. Pour autant, ça veut effectivement pas dire que tous les mecs qui sont pas HEC ou pas à Paris n'ont pas leur chance, elles peuvent pas créer des boîtes. Et à l'inverse, ça veut pas dire non plus que quand on est à Strasbourg, qu'on vient d'une école qui est moins bien cotée, on a plus l'agnac que quelqu'un qui viendrait d'HEC et à Paris dans un milieu privilégié. Je pense que faut pas forcément tirer de stéréotypes. Pour autant, faut juste garder en tête que la diversité, c'est un vrai atout. Et faut le pousser dans les boîtes. Au-delà de la levée de fonds, je pense qu'il y a un sujet levée de fonds, mais les investisseurs en sont aussi de plus en plus conscients. Mais il y a surtout, et moi c'est un truc pour lequel je milite, il y a un sujet recrutement. Aujourd'hui, la plupart des startups recrutent sur une plateforme qui est Welcome to the Jungle. Et Welcome to the Jungle, ils ont fait quelque chose de très bien, c'est de mettre en avant la culture des entreprises, en montrant l'intérieur des boîtes, en mettant des vidéos sur les fondateurs, etc. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas dans les recrutements un peu traditionnels. Mais Welcome to the Jungle, ça a créé un peu en fait un ensemble de codes de l'univers des startups que toutes les startups s'approprient. Tout le monde dans ses locaux a son logo peint sur le mur blanc. S'il n'a pas un baby-foot, a d'autres salles pour se divertir, a une certaine façon de parler, s'habille avec un pull avec le logo dessus de la startup, on fait des vidéos en t-shirt, quel que soit notre niveau hiérarchique dans la boîte, etc. Ça crée plein de codes. Et en fait, on a des personnes, j'ai déjà eu des personnes en entretien qui venaient du fin fond de la banlieue parisienne, qui savaient pas forcément c'était une start-up, et on leur a toujours dit que quand on va en entretien, on s'habille super bien, voire on met un costume. Donc ils sont arrivés en costume au bureau, et en fait, ce qu'il faut lutter, c'est contre le jugement quand quelqu'un se pointe en costume dans une start-up, parce qu'en fait, dans plein de cas, toutes les équipes vont rigoler. Le risque, c'est que le recruteur se dise, lui, il n'est pas du tout adapté au monde des startups, il se pointe en costume, il n'a rien compris, vaut mieux qu'il aille dans une banque. Et en fait, c'est pas ça, c'est juste qu'il n'a pas les codes. C'est juste qu'il n'a pas les codes, et en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que les personnes qui postulent sur Welcome to the Jungle, elles ont souvent les codes. Et en l'occurrence, ce candidat-là, il était venu chez nous parce qu'il avait postulé sur une autre plateforme, parce qu'on avait cherché à diversifier nos recrutements, du coup, on avait aussi mis des offres sur Indeed. Sur Indeed, voire sur Le Bon Coin, pour certains profils. Et en fait, pourquoi? Parce que il y a un phénomène qui fait que dans certains univers qui sont pas abreuvés avec le monde des startups, et c'est vrai, ça peut être vrai à la campagne, au fin fond de certaines banlieues, parce qu'il y a très peu de startups autour de ces univers, en fait, on n'entend pas parler de Welcome to the Jungle. Donc tout le monde cherche un job sur Indeed autour, donc les gens vont chercher sur un job sur Indeed. Ils trouvent une startup, une belle description sur Indeed, ça a l'air sympa, ils y vont. Et en fait, ils se prennent une grosse claque parce qu'ils n'ont pas les codes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas adaptés. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas apporter énormément à la boîte. Et au contraire, ils vont être souvent super riches et il va se créer quelque chose d'incroyable quand on les recrute. Mais je pense qu'il y a un effort à faire à la fois du côté des recruteurs pour ne pas forcément à 100% dépendre d'un Welcome to the Jungle. Mais j'ai rien contre Welcome to the Jungle, mais simplement pour comprendre que que rien n'est neutre quand on pose une offre d'emploi, rien n'est neutre et que à la fois quand on la rédige ou là où on la poste, en fait, crée des biais de sélection. Et c'est aussi vrai pour la diversité homme-femme. Hein, et je ne vais pas rentrer dans le débat de l'écriture inclusive ou pas, mais selon la façon dont on rédige une offre, elle l'attirera plus ou moins de candidats ou de candidates. Et en fait, c'est la même chose sur là où on la poste, d'un point de vue de diversité et de profils sociaux qu'on veut attirer. Et je pense que c'est quelque chose qui est super important d'avoir en tête. Et malheureusement, dans le monde des startups, on ne l'a pas forcément toujours en tête parce que tout va très vite et qu'on arrive vite à des situations aussi où on lève beaucoup de fonds, on recrute 10, 15, 20 personnes par mois dans les plus grosses boîtes qui lèvent beaucoup de fonds. Et quand tout va vite, personne n'a de temps. Et malheureusement, ces critères de diversité sont parfois sacrifiés. Et moi, je milite pour qu'ils reviennent au-dessus de l'agenda.
Et justement, j'aimerais bien qu'on parle de ton avis sur l'écosystème parisien. Vous êtes en contact un peu, les CIO, vous avez des... ceux qui se rencontrent régulièrement à Strasbourg pour parler, parce que là, ce qui va pas, je sais pas comment ça se passe à Paris.
En fait, déjà, je pense qu'il faut avoir en tête, c'est que les CIO de start-up sont des personnes qui sont très seules, parce que on parle de la solitude du dirigeant, et du coup, ça fait toujours très plaisir de se rencontrer entre CIO et d'échanger. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose d'assez universel. Si on peut se rencontrer, si on peut se parler, on le fait volontiers. Au-delà du partage des bonnes pratiques qui peuvent exister, échange d'un point de vue plus business, juste échanger entre pairs, entre fondateurs, globalement, c'est quelque chose qui fait très plaisir. Et donc nécessairement, il y a des réseaux qui se constituent. Je pense qu'une particularité de Paris, contrairement à d'autres villes en France, c'est qu'à Paris, il y a une multiplicité de réseaux. Il n'y a pas un écosystème dans lequel il faut absolument être. Je sais que nous, on avait avec mon banquier, on s'était développé dans plusieurs villes en France, et du coup, on voyait un peu comment fonctionnaient les différents écosystèmes. Et c'est vrai qu'il y a certains endroits. Je me souviens à Lyon, fallait être un peu. Il y avait le réseau Entreprendre où les gens étaient assez soudés. Il y avait Lyon French Tech, mais il n'y avait pas non plus 36 réseaux. C'était assez facile d'identifier là où rentrer et comment se connecter à l'écosystème. À Paris, il y a plein de réseaux différents. Donc c'est un fait, et il y a une multiplication des incubateurs aussi depuis 5-6 ans. Incubateur, accélérateur, on invente plein d'autres mots aussi pour dire à peu près la même chose, et chaque incubateur a envie de créer sa communauté et de fédérer les gens autour de ça. Après, je pense qu'il y a des réseaux qui sont plus qualitatifs que d'autres. Il y a un réseau qui se crée autour de la fondation Raise, qui donne des prêts d'honneur de 100 000 euros ou un peu plus à des boîtes qui se lancent, sont des prêts à taux zéro, comme le fait le réseau Entreprendre, qui a aussi un très bon réseau d'entraide bienveillant. Il y a Wilco qui fait aussi des prêts d'honneur. Donc ça, c'est des boîtes qui accompagnent c'est des structures qui accompagnent des boîtes qui sont au tout début en fait de leur activité, mais c'est aussi ces moments où on a besoin d'être connecté. Après, il y a nécessairement, il y a beaucoup de boîtes qui sont à Paris, à la Station F, qui est le plus grand incubateur du monde, qui a été créé par Xavier Niel. Donc, à Station F, il y a différents programmes qui sont soit hébergés par des boîtes, soit des écoles. Et au sein de ces programmes, il y a plein de réseaux. Bon, tout le monde veut créer ses réseaux, donc il existe ces réseaux. Après, je suis parti d'un réseau qui est assez qualitatif et qui est aussi assez influent dans l'écosystème, qui est un think tank qui s'appelle le Galion. Et donc The Galion Project, c'est un réseau d'entrepreneurs qui a une condition, en fait, qui fonctionne sur cooptation et qui en fait accueille des entrepreneurs qui ont levé des fonds, qui ont souvent levé, je crois que la condition c'est maintenant d'avoir levé plus de 2 millions d'euros. C'est un critère qui est discutable et qui est discuté, mais c'est un critère qui a été vu comme le plus objectif pour faire un peu un tri, on va dire, dans l'écosystème et essayer de constituer un groupe de réflexion qualitatif avec des personnes qui ont atteint une certaine structure, une certaine taille de boîte. Et en fait, c'est un réseau de fondateurs de startups qui essaye aussi de produire beaucoup de choses à destination de l'écosystème. et notamment en fait beaucoup de documents en libre accès comme un pacte d'associé type qui est à reprendre pour toute personne qui veut lever des fonds, qui s'appelle la Galleon Term Sheet. Il y a eu des mouvements, des pactes pour promouvoir l'égalité homme-femme dans les entreprises, pour pousser le congé parental. Donc le but, c'est dans ce réseau, c'est d'être assez influent sur l'écosystème et pour le faire évoluer, lui donner plus de maturité. Après, d'autres réseaux à Paris, il y a The Family aussi qui a fait un gros travail d'acculturation du monde des startups qui est arrivé très tôt et qui a fédéré beaucoup d'entrepreneurs et qui surtout en fait a produit beaucoup de contenu qui a permis, je pense, d'élever le niveau d'un point de vue culture startup et de le rapprocher de ce qu'on peut voir dans d'autres écosystèmes plus matures tels que les USA. Donc voilà, Paris, en fait, il y a une multiplicité d'acteurs. En pratique, ce qui se passe, c'est que malgré tout, ça reste, moi, de mon point de vue, ça reste quand même une petite ville et un petit monde. Et dans le monde des startups, je dirais que tout le monde se connaît. Et si tout le monde ne se connaît pas directement, bon, à une ou deux personnes près, on est toujours capable de trouver une intro, de faire des présentations et de se rencontrer. C'est un milieu qui va très, très vite. Et ce fameux mot intro, c'est le truc dont on parle toujours. Dès qu'on rencontre quelqu'un, on lui dit, tiens, je te fais une intro à bidule. Et ah, tiens, est-ce que tu peux pas me faire une intro à machin? Et ça marche comme ça, quoi, en fait. Le réseau, cette dynamique de réseau marche vraiment comme ça sur présentation réciproque.
Je veux savoir, quel est ton plus grand défaut?
Je pense que ces dernières années, j'ai un défaut qui a été de m'oublier. C'est-à-dire que je suis très, très attentif aux autres en général et à faire en sorte que tout le monde soit satisfait. Donc ça a été à l'échelle de mes employés, j'ai toujours été très à l'écoute des problèmes pro comme perso et essayer toujours de trouver des solutions individuelles pour chacun, à l'écoute du marché, de mes clients, de mes investisseurs, de tout le monde. Et à des moments, je me retrouvais à faire plaisir à tout le monde et à dépenser énormément d'énergie pour que tout se passe bien autour de moi. Et sauf qu'à la fin, je m'en rendais pas forcément compte, mais je m'oubliais totalement. Et je faisais non pas des choses qui me plaisaient pas, mais je pense que tout simplement, j'oubliais de penser à moi. Et ça, notamment, je l'ai vécu de façon un peu exponentielle pendant la phase du Covid, où nous, on est passé d'une boîte qui faisait plus de 500 000 euros par mois à zéro en quelques semaines. Et dans cette phase-là, faut rassurer tout le monde. Faut rassurer les employés, nos partenaires, nos artisans partenaires qui étaient chez qui on avait une activité conséquente, qui avaient pu créer de l'emploi grâce à nous, nos clients, nos investisseurs, notre nouvel acquéreur. Et donc moi, j'ai donné énormément d'énergie pour rassurer tout le monde, etc. Et faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde. Sauf que à un moment, je me suis dit, mais en fait, moi, où j'en suis, quoi. Et je suis en train de me cramer. Et finalement, sur du moyen terme, si moi je suis cramé, ce sera pas bon pour la boîte. Ce sera pas bon pour la boîte et ce sera bon pour personne, in fine, et ce sera un énorme retour de bâton. Et du coup, j'essaye d'être un peu plus égoïste. et c'est pas tant égoïste que tout simplement essayer de bien se connaître et de savoir quels sont, pourquoi je fais les choses en fait.
Ça va mieux maintenant, je pense.
Ça va mieux.
Qu'est-ce que tu détestes faire ?
Moi, je pense qu'il y a un truc que je déteste faire, c'est de suivre une règle ou de respecter une règle sans chercher à la comprendre.
Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante à nous partager ?
J'ai pensé à une anecdote qui est liée à l'activité que j'avais avec mon banquier. Donc nous, notre activité, c'était d'organiser des événements en entreprise. Mais en fait, quand on s'est lancé, on faisait aussi des événements privés. Et un samedi après-midi, j'étais en train de voir une expo avec des amis à Paris. Et 18h30 à peu près, mon téléphone sonne. Je réponds et j'avais une de mes clientes qui m'appelle en pleurs. Et qui me dit, Maxime, ça va vraiment pas, je suis vraiment pas bien, je vous appelle parce que c'est mon anniversaire, c'est mes 40 ans, je vous l'avais dit, je l'ai faite sur une péniche, on a fait une grosse commande. Je dis oui, je m'en souviens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas? Ben, elle me dit, Maxime, on est 80, Il n'y a que des juifs et des musulmans. On est sur un bateau et vous m'avez servi du cochon.
Oh mon Dieu.
Et je fais, ok, mince. Donc là, forcément, tu es tout seul dans ton expo. J'étais en plus à 40 minutes de chez moi. Je ne peux pas prendre mon ordi. Et je me dis, je comprends la détresse de ma cliente. Et elle me rajoute, Maxime, la péniche part dans 1h30. Trouvez-moi une solution. Parce que forcément le problème était trop simple sinon. Donc là voilà, ça c'était le type de stress qu'on pouvait avoir. Et là en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis bon, ok, j'ai 1h30, faut trouver des solutions. Et il y a un truc qui compte dans ce cas de figure pour moi, c'est de trouver une solution. Faut pas chercher les causes. On cherchera après les causes pour lesquelles il y a eu du port dans la commande alors qu'on avait spécifié qu'il devait pas y en avoir. Ce qu'il faut, c'est trouver des solutions. Donc, j'appelle tous mes artisans partenaires. Nécessairement, c'était le début de la boîte. On n'en avait pas non plus beaucoup. On avait peut-être un peu moins d'une dizaine. Mais le samedi à 18h30, les labos étaient fermés, quoi. Ils n'avaient plus de quoi produire. Ils étaient partis. Les patrons n'étaient pas là. Donc, globalement, pas de solution. Ce que je fais, c'est que je commande un sushi shop sur mon téléphone rapidement pour 80 personnes pour leur faire livrer des sushis pour faire livrer de la nourriture le plus rapidement possible. 20 minutes après, je m'aperçois que le sushi shop, il y a un problème avec la commande et qu'ils vont arriver 40 minutes en retard par rapport à déjà un délai qui était bien trop long par rapport au départ de la péniche. Donc ça, c'est foutu. Et donc là, un peu en détresse, faut vraiment trouver une solution. J'appelle plein de restaurants, ça marche pas parce que sortir de la bouffe pour 80 personnes, c'est compliqué. Et là, j'ai joué la carte start-up. Parce qu'effectivement, il y a un écosystème qui est quand même bien développé à Paris. J'appelle une startup qui se lançait sur la food delivery. Je les appelle et je leur dis, les gars, qu'est-ce que vous avez dans votre entrepôt? Trouvez-moi ce que vous avez. J'ai besoin de 80 repas et vous me les livrez sur telle péniche. Et en fait, ils m'ont trouvé 80 repas individuels végétariens, du coup, pour répondre à cette exigence qu'il n'y ait pas de porc. Et ils ont envoyé 5 livreurs en scooter, à vélo, qui sont partis côte à côte et qui ont tout, même plus que 5 livreurs, qui ont tout livré sur la péniche. Et en fait, donc, la livraison se déroule, mais la cliente me répondait plus. Donc moi, je savais vraiment pas si tout était arrivé à l'heure avant que le bateau parte, si elle était satisfaite ou pas. Et je l'ai appelé à minuit pour lui dire bonjour, je vous appelais juste pour vous souhaiter un bon anniversaire. J'espère que les choses se passent bien malgré tous ces soucis. Voilà, je vous souhaite juste un bon anniversaire et on se rappellera plus tard. Et donc elle me répond plus ou moins. Elle était toujours très énervée. Et en fait, la fin de l'histoire, c'est le lendemain matin, c'était dimanche à 11h. Elle m'appelle et elle me dit, Maxime, je tenais à vous remercier grandement. On a passé une super soirée. Et en fait, surtout, ce que j'ai vu, c'est que vous vous êtes démené de A à Z pour me résoudre ce problème. J'ai bien compris que c'était un problème qui n'était pas de votre faute, ou quand bien même c'était de votre faute, que c'était exceptionnel. Et vous avez tout fait pour qu'on passe une bonne soirée. Certes, c'était pas du tout, on n'a pas du tout eu ce qui correspondait à notre commande initiale. Mais bon, ça arrive. Et ce que j'ai apprécié, c'est vraiment votre soutien tout au long de la soirée. Un grand merci et j'organise un événement avec un club sportif dans lequel je fais partie dans 2 semaines et je vais passer commande chez vous.
Et, le coup de presse tout ça.
Et donc ça, tu vois, c'est une histoire que j'ai souvent utilisée en étude de cas pour les personnes qui postulaient dans notre équipe opération pour gérer les commandes. Parce que bon, j'ai passé plein de détails, mais ça a été assez compliqué finalement jusqu'à arriver à ce qu'on leur livre de la nourriture. Mais la clé de tout ça, c'est que quand on place les attentes du client avant tout, quand on fait preuve d'humilité par rapport au sujet, quand on fait preuve de compassion, d'empathie aussi avec le client, en fait, ça peut que bien se passer. Et du coup, c'est certes que le service, il n'était pas à la hauteur ce jour-là. Mais finalement, la cliente, elle est sortie contente et c'est devenu une ambassadrice. Et derrière, nous, par contre, le lundi matin, il y avait un plan d'action très clair pour que ce type de péripétie n'arrive plus jamais. Et ça a été... et on en a beaucoup appris. En fait, il faut savoir aussi apprendre de ce type d'événement. Et c'est vrai que celle-ci, je m'en souviens particulièrement parce que j'étais assez démuni. Et puis c'est très stressant. Après, c'est vrai que on n'a pas eu de, je pense pas qu'on ait eu d'événements de cas de figure aussi complexe, parce que là il y avait quand même une grosse restriction à l'avenir. Mais c'est vrai qu'on était sur un métier assez stressant, le traiteur, parce que si la nourriture arrive pas à l'heure, ben, il y a souvent 50, 100 ou parfois 1000 personnes qui ont très faim et pour qui, sur un événement, en fait, souvent un événement, il est réussi à 80% si la nourriture est bonne, quel que soit le contenu de l'événement. Et à l'inverse, s'il n'y a pas de nourriture, quel que soit le contenu de l'événement, l'événement est raté à 100%. Donc, il y a un gros enjeu quand on fait du traiteur. Et donc, c'est pour ça que j'avais pensé à... J'ai repensé à cette anecdote qui a été source de pas mal d'apprentissage aussi sur la relation client et sur la façon de gérer des urgences.
Oui, c'est sûr que si t'es pas là prêt à tout faire pour ton client, c'est un peu compliqué sur le long terme d'entreprendre, quoi.
C'est ça, et je pense que le client c'est la clé de tout, c'est ce pourquoi nous on était sur un modèle de plateforme où il y a le client qui était très important, mais aussi les artisans partenaires avec qui on travaillait. Et on avait ce niveau d'implication autant pour nos artisans que pour nos clients. Et j'ai déjà eu à l'inverse un artisan qui m'appelle en me disant « Maxime, je suis dans la merde parce que j'ai tel employé qui est pas venu ce matin. Je sais pas comment produire la commande, mais surtout aussi comment faire tourner ma boutique. » Mais nous, on se pliait en quatre pour trouver des solutions avec nos autres partenaires, créer de l'entraide. Et en fait, finalement, moi, ce qui m'a toujours animé dans l'aventure entrepreneuriale et ce qui continue de m'animer, c'est l'impact humain qu'on a, quoi. Et c'est quand il y a des gens qui nous appellent et qui sourient et qui nous disent merci. C'est ça qui nous drive. Moi, c'était pas de voir qu'on faisait plusieurs millions à la fin du mois qui augmentait ma motivation. Ça me rassurait. De voir qu'on avait les bons taux de croissance et qu'on avait les bons chiffres d'un point de vue revenu. Mais ce qui me motivait, c'est quand Jackie, qui était un de nos boulangers partenaires à Paris, et je le voyais débarquer au milieu du bureau, sortir de l'ascenseur avec un gros gâteau d'anniversaire pour l'apporter à une des personnes dans l'équipe, alors qu'il était bon, alors que c'était pas du tout prévu. Et c'est ce genre d'histoire, en fait, qui motive, et c'est ce qu'il y a de beau, je trouve, dans une aventure entrepreneuriale.
Et ensuite, je voulais savoir, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné?
Je pense que le meilleur conseil en tant qu'entrepreneur, ça a été d'investir sur moi, dans le sens investir sur la partie, sur la connaissance de soi, sur le développement personnel. Ça peut paraître très bullshit de dire ça parce que c'est vraiment à la mode, le développement personnel à toutes les sauces, mais j'ai vraiment découvert ce que c'était il y a quelques années sur les conseils de deux de mes investisseurs qui sont aussi des mentors.
Quelle personne tu me recommanderais à interviewer?
Je vais t'en recommander deux. Je dirais Bastien, qui est Bastien Rambeau, qui en fait qui a créé une super boîte qui s'appelle Vesto. Moi, je l'adore à plusieurs titres parce que je trouve que la boîte est super, elle a un vrai impact environnemental et sociétal. Gros Vesto, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent du matériel de cuisine professionnelle, qu'ils reconditionnent et qu'ils mettent à disposition des restaurateurs. Et Bastien, c'est un super entrepreneur qui a beaucoup de valeurs, très humain, très modeste, très très humble dans sa façon d'aborder les sujets et qui a un potentiel incroyable personnellement puis avec sa boîte. Et puis je suis super content d'accompagner aujourd'hui cette boîte, et d'autant plus que c'était un de mes anciens stagiaires. Et donc je suis très content de te recommander de parler avec Bastien. Et si tu veux discuter avec un entrepreneur qui est passé dans une autre phase de croissance et qui a aujourd'hui une boîte qui a plus de 500 employés, qui cartonne, mais qui pour autant a les pieds sur terre, est quelqu'un de très humain et qui oublie jamais d'où il vient, qui il est, et qui a un regard, on va dire, je pense, aussi critique que le mien, critique dans le sens positif que le mien sur l'écosystème, et qui est quelqu'un que j'ai rencontré grâce à cet univers de la food tech et qui est devenu un ami, c'est Paul Lay, de la startup La Belle Vie, qui est une boîte qui permet de faire ses courses en ligne. Donc aujourd'hui, le sujet des courses en ligne, la livraison de courses en moins de 15 minutes, c'est le sujet qui explose avec... plus de 10 startups qui se sont lancées à Paris et qui ont toutes levé en Europe entre 100 millions et 1 milliard d'euros. Mais Paul, en fait, lui, ce business, il le fait, je pense, mieux que tout le monde. Et il le fait depuis 5 ans. Il était resté un peu dans l'ombre. Il est sorti des radars. Il est passé au-dessus des radars, notamment l'année passée. Et c'est une boîte, La Belle Vie, qui est assez incroyable et surtout qui a des valeurs et qui est portée par, qui est portée par très belles valeurs.
Ben parfait, tu pourras me mettre en lien avec ces deux personnes alors.
Avec plaisir.
Donc merci d'avoir participé à mon podcast.
Ben merci à toi, merci pour l'invitation et puis bravo pour ce que tu fais. Je pense que ça doit beaucoup aider globalement des entrepreneurs ou même pas que entrepreneurs, de personnes qui s'intéressent à ces sujets. Je pense que tu parlais d'écosystème startup, c'est grâce à des personnes comme toi qu'un écosystème se développe.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu es sur une plateforme de podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un commentaire et à enregistrer mon podcast. Ça me permettrait de remonter un peu dans l'algorithme et être un jour dans les suggestions d'écoute. Ce serait vraiment top parce que c'est vraiment l'objectif de cette saison 3 et je compte sur toi pour m'aider à y parvenir. N'hésite pas à partager mon podcast à tous les entrepreneurs autour de toi. Toutes ces personnes qui ont besoin de doses d'inspiration pour avancer, parce qu'on sait tous qu'être entrepreneur, c'est pas facile tous les jours. Donc merci de m'avoir laissé de ton temps. J'espère que ça t'a apporté des idées, de l'inspiration pour avancer et pas t'arrêter même quand c'est difficile, parce que tous les entrepreneurs que j'interviewe ont eu des moments de confort et d'inconfort. Et si c'est le cas pour toi, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc je te fais des bisous et je te dis à vendredi prochain.